voudrais vous raconter l'histoire de l'exil, ou plutôt l'histoire d'une femme. Une femme moderne, une battante, pas le genre à ruminer son passé, pas le genre à ressasser, plutôt le genre à foncer. Elle sait bien qu'une partie de sa famille vient d'Europe de l'Est, mais ça ne la passionne pas plus que ça. Elle préfère même ne pas trop y penser. Ce n'est pas non plus du déni, c'est juste qu'elle veut aller de l'avant, qu'elle n'a pas de temps à perdre avec le passé. Surtout qu'il est plutôt malheureux ce passé, celui de ses parents et de ses grands-parents, des juifs pourchassés, persécutés, exilés. Lorsqu'elle s'est mariée à un catholique, ils en ont été plutôt heureux. On ne sait pas de quoi l'histoire est faite. C'est peut-être plus prudent d'avoir le judaïsme discret, d'être protégé par un nom qui n'attire pas les antisémites comme des mouches. Que reste-t-il en elle de cette Europe de l'Est ? Les membres de sa famille qui ont perpétré les rites et traditions s'en sont allés. Elle, elle est née et a grandi à Paris. Et lorsqu'elle quitte la France, elle s'envole pour Dubaï ou New York et pas pour la Pologne. Que reste-t-il en elle de ce mélange si particulier de tristesse et de joie, de la culture de ses aïeux, du génie de ceux qui savent danser sur les ruines et continuer à lire même le ventre creux ? La tristesse, elle ne voit pas trop. Il lui arrive d'être fatiguée, agacée, mais la tristesse, franchement, elle manque de temps pour ça. Quant à la joie, elle a trop de satisfaction, de reconnaissance, au fond, elle a trop de bonheur pour savoir ce qu'est la vraie joie. Il n'y a qu'à entendre le bruit de ses talons sur le trottoir. Elle avance, elle trotte, elle a plein de rendez-vous et le temps presse. Le passé repassera. Sauf qu'il y a cette musique, soudain, qui s'échappe de la fenêtre d'un bar. Et tout revient d'un coup. Aucun souvenir conscient, mais tout revient d'un coup. Sauf qu'il y a ses violons, ses clarinettes, le mode mineur de cette musique et des larmes. Soudain dans ses yeux, elle ne comprend rien à ce qui déborde en elle, ce qui la submerge. Sa poitrine se secoue, c'est la musique de son pays, même si elle n'y a jamais mis les pieds. C'est le chant des exilés qu'elle reconnaît comme sien, enfin. Son corps lui rappelle qu'elle est enfant de l'exil. Son émotion lui crie ce que sa conscience a oublié. Elle est triste enfin, triste et joyeuse enfin. Et ça fait tellement de bien.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Pour en parler ce matin, de ce que l'exil fait au cœur, de ce que c'est qu'être ou ne pas être à sa place, j'ai la joie de recevoir la chanteuse Olivia Ruiz, dont le premier roman, La commode au tiroir de couleurs, a été un immense succès et qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous parler d'exil, mais aussi, ce qui n'est pas sans lien, je le crois, de liberté, de sensualité et de créativité. Olivia Ruiz, bonjour.
Et bonjour Charles.
Ça me fait très plaisir de vous recevoir, surtout après aussi avoir beaucoup apprécié votre roman, La commode au tiroir de couleurs. Il faut préciser que c'est un roman, mm-hmm, et dans lequel justement vous racontez l'histoire d'une grand-mère, et puis aussi de plein d'autres femmes exilées justement. Pourquoi vous avez écrit ce roman ? D'où ça vient cette idée, et comment vous êtes passé au roman ?
Alors je crois que j'avais un profond désir de rendre hommage à la femme, aux migrants, à l'histoire de l'Espagne un peu trop passée sous silence à mon goût. Je me souviens enfant d'avoir été appelée par ses racines et d'attendre ce moment où on entre au collège en me disant on va me parler de cette histoire puisque les miens ne le font pas. Et là, les grands dictateurs, Hitler, Mussolini et pas de Franco en vue. Donc voilà, pour répondre à cette frustration aussi qu'a mené le silence sur leur histoire de mes grands-parents.
Oui, vous avez donc trois grands-parents réfugiés en 1939, j'imagine.
Je sais pas. Non, il semblerait que ce soit pas en 39 pour les trois.
Ouais.
Vraiment, quand je parle de bouche cousue, j'exagère pas. Ils ont mis sous le tapis, comme vous le racontiez en introduction, leurs origines dans un souci d'intégration et de douceur de la vie et pour éviter ce rejet de la différence, être plus français que les Français, un leitmotiv qu'on entend souvent.
Mais d'ailleurs, dans ce roman, il y a une commode comme ça qui est léguée par une grand-mère, donc qui pense justement à transmettre, qui veut que ça soit pas oublié. Mm-hmm. Et dans chaque tiroir, il va y avoir quelque chose. Chaque chapitre est un tiroir tiré, ouvert, mm-hmm, et on va avoir une lettre et des objets, etc. Et vous dites, vous êtes offert ce que votre famille ne vous a pas offert, puisque vos grands-parents ont gardé le silence, même quand vous insistiez, mm-hmm, et vous dites que vous auriez aimé, au fond, avoir une grand-mère comme ça qui laisse cette commode.
Ah oui.
Sauf que moi, ce que je me dis, en lisant votre livre, et puis aussi en écoutant pas mal de vos chansons, finalement, qui parlent de ça indirectement, mm-hmm, c'est que c'est peut-être tant mieux qu'il y a eu ce silence, parce que vous avez cherché quelque chose pour habiter ce silence, mm-hmm. que par exemple, sans ce silence, il n'y aurait pas eu ce livre. Et puis peut-être, il n'y aurait pas eu une sorte d'intranquillité en vous qui fait que vous chantez, vous dansez, vous écrivez, que vous ne vous arrêtez jamais. Mm-hmm. Et vous savez, peut-être que si on vous avait raconté votre histoire clairement et que vous avez donné des paquets comme ça à 12 ans, à 16 ans, à 20 ans, bah vous auriez été peut-être moins intéressante.
Ah, mais c'est sûr que le héros grec qui termine sa quête, ça, c'est... Mais à la fois, j'aurais adoré, moi, écrire un récit. J'aurais adoré vivre ces moments de transmission. J'aurais adoré avoir mes grands-mères, mes grands-pères comme des griots et m'asseoir à leurs pieds pour écouter l'histoire. Effectivement, j'aurais pu avoir le poids de la vérité encore plus que je ne l'ai eu là. Là, j'avais qu'à aller vérifier auprès de gens compétents que ce que je disais était plausible et réaliste. Si ça avait été mon histoire personnelle, j'aurais eu une pression supplémentaire que j'ai pas eu là, effectivement. Et je crois que la volonté de Rita dans le livre, au-delà de l'effacement de sa propre histoire, elle est qu'elle a compris que sa petite fille, sa fille, j'allais dire, c'est un vrai lapsus, avait besoin de clés pour continuer à avancer. Et je crois que c'est ça, elle veut la léger. Moi, j'ai toujours en tête cette image du sac à dos, rempli de gros cailloux, mais vraiment ceux avec lesquels on fait les belles rocailles en Provence et en Occitanie, et de délester, et de l'ouvrir régulièrement pour jeter des pierres, pour défricher régulièrement pour les générations futures. Peut-être encore plus que pour que l'histoire reste vivante, parce que l'histoire...
Mais alors, jeter du lest, vous dites ?
Lâcher du lest, quoi.
Lâcher du lest, alors écoutez ça. Il y a quelque chose, parfois, d'un peu énervé, en tout cas avec du tempérament, dans votre façon de chanter, et vous parliez de jeter du lest, et vous parliez aussi de transmettre. Mais finalement... est-ce qu'on transmet mieux des choses quand on sait qu'on les transmet ou quand on ne le sait même pas et que finalement la transmission a lieu quand même ?
Oh bah, je pense que ça se vaut, clairement. Je crois que dans le silence, mes ancêtres m'ont transmis énormément au-delà de la parole. Mais je crois quand même, je crois que la parole est libératrice. Donc moi, j'avais envie de sauver ma famille. J'avais l'impression qu'ils vivaient une demi-vie, une vie qui n'était pas la leur, qui pouvait être beaucoup plus puissant que ça, oui. qui s'interdisait beaucoup de choses. Donc il y avait cette motivation là qui s'allège eux aussi.
Je comprends.
Et qui est complètement qui est indépendante de la transmission silencieuse, qui est nécessaire aussi et qui, de toute façon, nécessaire, s'impose. Voilà.
Donc... Oui, vous avez raison, puisque c'est là, à la limite, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, mais quand même, il y a une scène que vous avez racontée, et d'ailleurs, elle a inspiré mon petit édito du début, je crois que vous l'aviez deviné, c'est quand vous avez grandi en parlant français, c'était votre langue naturelle au quotidien. Et puis, votre père, à un moment, donc votre père aussi est chanteur, vous avez passé beaucoup de moments enfant à l'accompagner, à chanter un peu avec lui. Et puis un jour, il vous propose de chanter en espagnol. Mmh. Et là, il se passe quelque chose.
C'est ça. Alors, parce qu'on ne revendique pas l'Espagne, mais on part quand même tous les ans rendre visite à notre famille en Espagne, à Gérone, pour la Semaine Sainte. Donc, alors, voilà, on est quand même bourré d'incohérences dans tous les sens. Et donc, effectivement, on chante la foule avec mon père qui m'accompagne.
Ah oui, donc
et
Piaf.
Et d'un coup, voilà, Piaf, et il me dit, tu sais, elle existe en espagnol. Et je vais vous dire, Charles, c'est flagrant si je vous fais... je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et si je vous la fais en espagnol, no te asombras si te digo lo que fuiste, tan ingrata con mi pobre corazón. La voix se transforme. Et cette fois-là, j'ai 9 ou 10 ans. Quand je me mets à chanter, l'accent arrive presque naturellement, partiellement bien sûr, et ce timbre-là tout d'un coup devient celui d'un autre. Donc là, on est vraiment dans la symbolique de la transmission silencieuse, quelque chose qui est presque magique, j'allais dire. Et on se regarde assez perplexe avec mon père, et à partir de ce moment-là, je sais que l'espagnol, c'est ma langue, ma langue de tripe. Si ma langue maternelle est le français, la langue de mon âme est l'espagnol à mes dépens.
Mais alors, vous dites quelque chose qui n'est pas moi, arrive en moi, mais qui au fond plus vous que vous-même.
Oui, qui ne m'appartient pas directement, mais qu'on m'a légué à mes dépens, oui.
Et c'est aussi peut-être, vous savez, il y a une belle phrase du poète René Char qui dit « C'est quand tu t'établis à l'extérieur de toi que tu peux vraiment te trouver ». C'est ça aussi, la vraie vie, on est jamais complètement collé à soi et on est surpris par une dimension de soi qui apparaît. Je vous propose d'écouter Lydie Salvert, je crois que vous connaissez, un extrait de son livre.
On s'est rencontré une fois, mais ce livre a changé ma vie.
Voilà, pas pleurer, justement, écoutons-le.
« Dès l'enfance, je parle deux langues. À la maison, je parle l'espagnol, qui est la langue de mes parents, réfugiés politiques. À l'extérieur, je parle le français. Schématiquement, les choses vont peu à peu se construire ainsi. L'espagnol va devenir la langue du dedans, la langue de l'intime, des ripostes intérieures, la langue qui prend en charge tout ce que ne peut porter la langue du dehors, qui est la langue officielle. Parallèlement, le français s'impose à moi comme la langue de l'école, la belle langue des livres, la langue qui sait mentir, qui s'aime, qui se regarde, qui fait du style. Et ces deux langues en moi vont entrer en guerre dès le début. Mais c'est une guerre que j'aime, que je désire, une guerre amoureuse dont je ne me lasse pas, sans doute parce qu'elle féconde cette autre langue qui est la langue de mes livres.
C'était Lydie Salvert lisant son propre texte, un extrait de son roman « Pas pleurer » dans l'émission de Guillaume Gallienne.
Vous le voyez, hein, j'en ai la chair de poule et les yeux qui s'humidifient immédiatement. Cette façon de raconter dans une immense pudeur, et en plus portée par la voix de Lydie, là c'est encore plus puissant, parce que c'est une femme forte qui correspond vraiment... Bon, on est dans un lien étroit entre le vécu et le roman, en l'occurrence dans « Pas pleurer ». Mais elle a tout de l'Espagne, cette femme. Elle a à la fois la générosité, le côté extrêmement maternel, et en même temps cette pudeur, cette fausse froideur, cette fierté. Elle est tellement l'Espagne à elle, toute seule, Lydie, tout en étant bien française, que le simple fait de pouvoir la suivre, la regarder, la lire, et opère déjà une espèce de réconciliation entre moi et moi.
Oui, parce que il y a cette idée, vous savez, les psychologues qui ont étudié les ressorts de la créativité ont montré quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a chez les gens qui ont une double culture, alors ça peut être carrément au sens un parent dans une culture, l'autre dans une autre culture, ou alors, comme dans votre cas, une double culture en un autre sens, en fait, avec plusieurs générations, que ça favorise la créativité de manière assez directe, assez implacable, surtout quand on a deux langues, deux visions du monde, et quand ces choses se croisent. J'ai l'impression que c'est votre cas, et que d'une certaine manière, c'est aussi un des ferments de votre créativité, dont on va parler après. Mais ce que je voulais vous demander, c'est de réagir à ce qu'elle appelle la langue du dedans et la langue du dehors. Est-ce que vous le vivez comme ça aussi, entre le français et l'espagnol ?
Alors justement, moi je rêvais que mes grands-parents me parlent en espagnol. Dès que j'ai commencé à l'apprendre, j'allais leur parler en espagnol dans cette demande d'unifier justement ces deux langues et de n'en faire qu'une. Et ça a été douloureux de lancer une balle qu'on ne me renvoyait jamais. Mais aujourd'hui, je suis dans quelque chose d'assez étrange, dans un complexe de la langue. J'ai beaucoup vu ça chez plein de gens. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai peur de parler l'espagnol. Je suis partie il y a 7 ou 8 ans, toute seule à Cuba. Un billet aller, pas de retour. Personne, aucun contact là-bas, et je suis revenue 8 mois plus tard, je me sentais vraiment en accord avec moi. Je ne m'étais pas du tout inhibée, je m'étais lâchée, tout le monde me prenait pour une Argentine, allez savoir pourquoi. Ma langue était là et pleine, et là, depuis quelques temps, avec un lien avec la maternité que j'ai pas encore complètement tissé, qui m'empêche de parler à mon fils en espagnol alors que j'en ai le désir, mais de commettre des erreurs. Donc je bascule sur des comptines et des livres en espagnol pour être certaine. Ouais, je sens que depuis quelques années, j'ai quelque chose à retrouver parce que comme si depuis que mes ancêtres étaient morts, j'avais hérité de leur illégitimité, en plus de tout le beau qu'il m'avait laissé et qui me rendait créative. De ce petit truc-là qui est un peu emmerdant et qu'il va falloir aller trier, un peu farfouiller pour savoir pourquoi. Ou bêtement, contrer avec des cours d'espagnol, avec la promo du livre quand il sortira en Espagne, avec toujours la confrontation parce qu'il y a que ça qui amène... qui déverrouille à un moment donné.
Vous avez, vous dites regretter de n'avoir pas eu dans votre histoire véritable cette commode avec les tiroirs. Et j'ai lu que vous en aviez acheté une pour votre fils, que vous commencez d'ores et déjà à remplir les tiroirs.
Je l'ai faite fabriquer par des copains, moi, qui font des meubles en carton magnifiques. Parce que je me suis dit, si un jour il a ce souhait lui aussi, ce serait vraiment pas sympa de ma part de n'avoir rien laissé. Pour l'instant, il y a juste mon livre dans le premier tiroir, avec une dédicace, bien sûr, pour lui. Et puis, ben voilà, il y en a 9 autres à remplir. J'ai une vie.
Ah oui, il a déjà ce livre.
Une demi-vie.
Ce livre, La commode au tiroir de couleur, je rappelle, un immense succès. Plus de 300 000 lecteurs, je crois. Je vais lire un petit extrait avant qu'on écoute une chanson. Ce n'est pas un cadeau, c'est peut-être même un fardeau. Mais tu as tant émis le désir de faire la lumière sur tes origines. Et bien avant tes études de psycho, que je te dois bien ça, je crois. Comment dis-tu déjà ? Ah oui, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Écoutons Michel.
Soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Olivia Ruiz, sous le soleil de l'Espagne, d'ailleurs plutôt que de Platon. Mm-hmm. Et on parle de son très beau roman, La commode au tiroir de couleur. Avant cette petite pause musicale, vous parliez aussi du fait d'avoir hérité d'une forme d'illégitimité. C'est-à-dire que vous êtes né en France, à Narbonne, je crois.
Carcassonne.
Et vous avez toujours ce sentiment de ne pas être exactement à votre place. Est-ce que finalement, c'est pas aussi ça qui rend créatif? De pas savoir exactement à quelle place on est, parce qu'on a un truc à conquérir, en fait.
Alors, probablement. Mais il y a toujours cette limite qui est encore plus fine qu'un papier à cigarette entre le doute moteur et le doute paralysant. Et moi, je sais que j'ai la fâcheuse tendance à naviguer de l'un à l'autre d'une façon un peu trop perpétuelle à mon goût. pour la petite anecdote, je me souviens très bien de la première fois que j'ai eu deux victoires de la musique. Et moi qui suis toujours très complexée, très dans un sentiment d'illégitimité, je me souviens de m'être réveillée le matin, le lendemain, et de m'être dit, là je vais sortir, et je vais me dire que j'ai ma place, et que je mérite ce que j'ai, et je vais bomber le torse, entre guillemets, parce que je mérite cette tranquillité d'esprit aujourd'hui, parce que tout ça s'est passé. Et alors, c'est le jour où on m'a le moins dit bonjour dans mon quartier de toute ma vie, où tout le monde était un peu rush à la boucherie, où on m'a le moins calculé de ma vie. Je suis rentrée chez moi en me disant, mais il est à moi, ce sentiment d'illégitimité. Il y a un moment, faut arrêter, parce que même le jour où je me sens regonflée à bloc, et prête à me sentir fière de moi et apaisée, ça ne fonctionne pas. Donc, juste fais-en ton copain, quoi.
On me cherche sans jamais me trouver. J'attire et j'attise les désirs inavoués, comme le poison que l'on redoute. Je me dessine dans l'ombre d'un doute.
Ben on en parlait justement. C'est une jolie phrase. Je me dessine dans l'ombre d'un doute. Et vous disiez que finalement, même au lendemain d'un triomphe, un double victoire de la musique, vous espériez aller en profiter dans une sorte de, je sais pas, façon d'exulter. Mais même là, il y avait ce sentiment d'illégitimité. Ça me fait penser à une anecdote relatée par un philosophe que j'adore, qui s'appelle André Agassi, et qui a écrit un très bon livre, Open. C'est un sublime livre dans lequel il raconte que le jour où il devient numéro un mondial, commence sa dépression.
Ah.
Ça va un peu plus loin que vous, mais quand même, c'est la même idée, c'est qu'il ne peut pas en profiter, parce qu'en fait, il est toujours en train de chercher quelque chose, il est un peu à côté de là où il devrait être. En l'occurrence, pour lui, il s'agit du tennis, parce qu'il n'est pas passionné de tennis, il sait juste faire que ça, alors il est devenu numéro un mondial parce qu'il a fait que ça. Mais en fait, il a cette espèce de doute qui va en faire quelqu'un de génial, puisque après, il va créer une fondation pour les enfants défavorisés qui n'ont pas accès à l'éducation. Voilà. Avec une histoire géniale, il est amoureux. Alors, il a tous les mannequins du monde possible, mais en fait, il est amoureux de Steffi Graf et elle le regarde pas.
Oui.
Un peu comme vous dans la rue, elle le calcule pas. Et alors, il se dit, je vais gagner Wimbledon parce qu'il y a un rite, c'est que elle gagne tout le temps Wimbledon. Et donc, il sait qu'il y a un bal entre les deux gagnants. Et donc, il gagne Wimbledon pour pouvoir danser avec elle lors du bal avec les rois. Enfin,
oui.
Et puis, du coup. Pour la première fois, alors qu'il a gagné Wimbledon et qu'il espère lui parler à l'occasion du bal, le bal est annulé pour les raisons de sécurité.
Mais non. Ah ouais, voilà. Non, mais quand le destin s'acharne. Oh, pauvre André Agassi.
Mais alors, dans votre roman, puisqu'on parlait du doute, la commode au tiroir de couleurs, finalement, il est beaucoup question de confiance. On voit bien, il y a plein de moments où finalement la confiance arrive. Et parfois, elle arrive notamment grâce à la sensualité. On a l'impression que la sensualité, c'est une manière pour quelqu'un de prendre possession de sa puissance, en fait. Je lis un petit extrait. Donc c'est Rita qui parle. Rita, c'est la grand-mère, surnommée La Buella. Et c'est une femme au travers de laquelle vous visitez plein de visages de femmes. Et elle écrit « Pourtant, grâce à la délicatesse de Raphaël, je m'étais révélée dans la sensualité. J'avais construit ma liberté et puisé mon énergie. »
Oh, on pourrait parler d'hormones aussi, hein, tout simplement. On sait très bien que le contact, et puis on sait bien, avec cette immense chose qui était le pot à pot, qui a été défendu par plein de pédopsies pendant longtemps, et puis bien sûr la sexualité.
Le pot à pot, vous pouvez nous expliquer ?
Alors moi j'ai accouché dans une maternité où on essaye d'être le plus proche de la nature possible, pas new age mais dans un certain état d'esprit, et effectivement la première chose importante après l'accouchement est d'être dénudée et de poser la peau de son bébé contre la sienne et de garder ce contact là de façon régulière, de façon à bizarrement sécuriser l'enfant.
Bien
tout
sûr.
D'un coup, à sa question, est-ce que tu seras toujours là, qui est là probablement depuis les premières secondes de vie, le pot à pot répond oui, je serai toujours là. Et bizarrement, du coup, en grandissant, c'est vrai que la désunion, au sens la coupure du cordon, au sens symbolique du terme, se fait, en tout cas moi je l'ai vérifié de mon côté, très naturellement. parce qu'on a cet apaisement, cette confiance, justement, en demain.
Et voilà, et cette confiance dont vous parlez très bien, elle vient plus de la peau que des regards, finalement. Elle vient plus de la peau que des yeux. Il y a vous savez, dans les études...
Ou que des mots, oui.
Il y a des études sur le stade du miroir qui montrent ce qui se passe quand l'enfant se reconnaît pour la première fois au miroir. En fait, il est angoissé, il n'est pas sûr que c'est lui. Et il se tourne vers l'autre, sa mère, par exemple. Puis il l'interroge, angoissé, l'autre du regard. Est-ce que c'est moi? Il a envie d'être rassuré. Et finalement, le regard de l'autre va le rassurer un peu, mais pas beaucoup. Alors que la peau, le contact sensuel, c'est quelque chose qui...
Le regard va lui prouver juste son existence, mais pas forcément.
Et encore pas complètement, le doute va demeurer. Puisque finalement, c'est un regard inquiet qui interroge l'autre, et la réponse de l'autre, elle n'est pas très claire. Hein. Alors qu'une caresse, la peau contre la peau, dans une de vos chansons que j'aime bien, il y a cette phrase « Un corps qui dit oui a pour moi tous les droits ». On retrouve comme ça beaucoup de moments de sensualité, dans évidemment le tube aussi La Femme Chocolat, c'est un tube très sensuel.
Ou Mon corps, mon amour, plus qu'un credo, plus qu'une envie, je baise donc je suis. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ce genre de choses chez les garçons. C'est un peu agaçant. Une femme a des besoins sexuels au même titre qu'un garçon.
Ah bon ?
Il y a pas, enfin, je trouve que cette idée est vachement encore ancrée. Alors que, voilà, on dit la mal baisée, on a des espèces de termes comme ça qui sont prêtés qu'au féminin, mais non, on est, je crois qu'on, ça fait peut-être partie des terrains sur lesquels on se ressemble plus qu'on ne l'imagine.
D'ailleurs, cette chanson, Mon corps, mon amour, c'est vous qui l'avez écrite. Parce que j'ai regardé dans tous vos disques, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de paroliers qui ont écrit pour vous, et puis de plus en plus, c'est vous qui écrivez vos textes.
Voilà, premier album trop étocharde pour me lancer. Quand on est amoureuse de Nougaro ou de Beko, on se sent minuscule quand il faut prendre le stylo pour écrire un texte. Et premier album, j'avais clairement pas le courage. Donc j'ai donné mes thématiques à des gens que j'admirais beaucoup et dont j'avais confiance en la plume. Et dès le deuxième, grâce à Mathias Malzieux, c'est lui ma confiance.
C'est lui qui a écrit La Femme Chocolat, d'ailleurs.
Voilà, sauf que sur La Femme Chocolat, il me met un grand coup de pied aux fesses. Il connaît mes chansons par force, puisque nous partageons nos vies aussi. Et là, il me dit, mais tes chansons, elles sont super, pourquoi ne pas les sortir au boulot? Et dès La Femme Chocolat, je compose et j'écris la moitié de l'album. Et à partir de là, c'est lancé, je fais mes textes toute seule, je partage des compos de temps en temps. Troisième album, toute seule par force aussi, parce que j'étais exilée à Cuba et aux États-Unis, vraiment seule. Donc, voilà.
Ah oui, donc quand vous êtes partie, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était quand même pas pour aussi être inspirée pour un album.
Vous
n'êtes pas partie sans aucun but.
Non, je suis partie en pleine crise existentielle. Qu'est-ce que je fais là? Qui m'aime pour de bonnes raisons? On vient me voir juste parce que je représente quelque chose. Je veux être sûre d'être un bel être humain. Alors je vais me présenter comme n'importe qui auprès de n'importe quel étranger qui ne peut pas avoir entendu parler de moi et vérifier que je suis un être humain qui peut reconstruire un tissu social et partir demain et recommencer quelque chose de zéro et être aimé pour ce que je suis moi.
Ça a marché ?
Super, je suis revenue au bout de 6 mois, puis je suis repartie 2 mois. Non, bien.
Donc cette crise existentielle, elle a été déclenchée par quoi ?
Vous allez me renvoyer à Gassi, là, parce qu'effectivement, c'est après l'incroyable succès aussi du troisième album, Miss Météor, et une séparation. Voilà. Une séparation qui est justement le regard qui jusque-là me permettait de tenir debout et d'être fière de moi. Comment je fais sans ce regard? Est-ce que je suis capable encore de quelque chose sans ce regard qui dit tu es la plus belle, tu es la plus forte et qui quelque part me tient debout depuis de longues années?
Ouais, c'est de toute façon, on a besoin de ce regard, mais qui en même temps nous simplifie, nous réduit. C'est ce que Sartre dit très bien en disant qu'on est à la fois défini et aliéné par cette intersubjectivité, par ce regard.
Mais oui.
Vous avez parlé de beauté dans vos textes. Il est plus souvent question de sensualité que de beauté. Il y a une chanson belle à en crever, mais il y a beaucoup, beaucoup de chansons sur la sensualité. Est-ce que c'est pas une manière de dire que dans la sensualité, il y a quelque chose de plus libre, de plus sauvage, là où la beauté est plus normée? Et est-ce que finalement, quand on est une femme, on arrive à exister en sortant de l'assignation à la beauté,
mais tellement,
davantage par la sensualité que par la beauté?
Et la beauté fan, la sensualité, non.
Et ah oui, d'ailleurs, c'est ce que vous racontez dans une très belle chanson, très drôle, sur une femme un peu vieille, qui a plein d'amants. Ça, c'est une chanson drôle. Mm-mm. C'est rare, la chanson drôle.
Bah oui, je ne suis pas si vieille que ça. J'ai encore du temps devant moi. Ça me semblait être un vrai sujet. Parce qu'on s'interdit des choses. Parce que la société nous laisse penser qu'après 50 balais, on devient une demi-femme. On devient une mère, une grand-mère, et que tout d'un coup, ces statuts-là prennent le pas sur le reste. Alors que l'équilibre dépend tellement de cette sensualité. Peu importe la façon dont elle s'exprime, mais il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit remarquée par l'autre aussi, pour permettre de se sentir encore plein. Et on est plein pas quand on est juste une femme ou une mère, juste une mère ou une grand-mère, on est plein quand on est une femme aussi. Surtout, j'allais dire.
Je crois que c'est le moment d'écouter justement Mon corps, mon amour d'Olivia Ruiz.
J'appelle tes mains à leur part pour mon corps se grippe. Mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui, le tien reste sourd. Pas un credo, plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je.
Olivia Ruiz, évidemment, Mon corps, mon amour.
Sous le soleil de Platon.
Il nous faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Olivier Ruiz, sous le soleil de Platon, qui est un peu aussi celui de l'Espagne, et pourquoi pas de Carcassonne. Hein.
Mais oui.
Alors, une femme puissante est davantage une femme sensuelle qu'une femme belle, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la beauté se fane et la sensualité s'épanouit, et parce qu'aussi la beauté est peut-être plus normée, elle relève d'un code, alors qu'il y a peut-être plus de liberté dans la sensualité. Mm-hmm. Il se trouve que vous avez été une enfant un peu complexée, je crois,
très,
dans un corps qui ne vous plaisait pas, mm-hmm, un petit peu ronde on va dire,
ouais,
et que vous avez, vous êtes peu à peu émancipée de ce complexe grâce à la sexualité au fond.
Ben oui, enfin déjà grâce à la puberté, parce que tout d'un coup le corps de femme a abandonné le corps de l'enfant sur la route, de cet enfant qui était ronde et qui morflait énormément à l'école.
Vous voulez dire jusqu'au harcèlement?
Ah ouais, des jours et je sais pas où ça commence, où ça finit le harcèlement, mais en tout cas partir avec la boule au ventre quotidiennement, ouais, à l'école, bien sûr, et appréhender. Ce moment où on entre dans l'école et où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait une tournée uniquement pour des publics empêchés. J'ai écrit un spectacle à cet effet. Les publics empêchés, ce sont tous ceux qui n'ont pas un accès facile à la culture. On a été dans des centres de demandeurs d'asile. On a joué pour des autistes pendant 3 semaines. Et dans le spectacle, je parlais de cet épisode-là et je raconte ce jour où ma mère arrive au café avec un cadeau pour moi, un jogging. Et le bas du jogging est tacheté, évoque très clairement un pelage de vache. Et sur le haut du jogging, il y a une tête de vache, énorme, mais vraiment énorme. Et où, l'amour parental ne peut pas voir certaines choses parfois parce qu'elles sont trop dures à accueillir. Mais je me souviens très bien de ma maman qui me dit « Mais tu t'en fous, tu as peur qu'on se foute de toi, mais est-ce qu'il te plaît toi ce jogging ?» On s'en fiche des autres. T'es plus forte que ça. Il faut que tu passes cette chose. Si toi, tu en as envie, il faut que t'ailles au-delà de ça. Et je l'ai mis, jogging, parce qu'il me plaisait. Oui, il y avait quelque chose de tellement drôle. Et moi, la mode a toujours été quelque chose de très ludique, un peu moins là, parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai toujours utilisé ça comme un moyen d'expression très fort. Donc, il y avait quelque chose d'amusant et qui racontait. Et grâce à elle, je suis devenue une sorte de petite guerrière, parce qu'une fois qu'on a affronté quelque chose de tel, et qu'on a pris 10 fois plus cher, et qu'on sait qu'on est allé tendre le bâton pour se faire battre, on est plus fort.
Mais c'est votre mère qui a fait ça. C'est une méthode, ouais, de psy, ça s'appelle la stratégie de l'exposition.
C'est pas vrai.
Ah oui, c'est une méthode très classique.
Alors qu'elle y connaît rien, je pense. Hein. Bon,
c'est des gens qui ont une phobie sociale, par exemple. Les psys leur disent, voilà, vous avez peur du regard des autres, et ben vous allez vous habiller de façon ridicule, aller dans le métro et chanter.
Ben voilà. Elle était thérapeute. Elle est thérapeute sans le savoir. Et ça a été une immense... un épisode dont je plaisantais dans ce spectacle aujourd'hui. Je laissais un gros blanc en disant « Et moi, ce jogging, je l'ai mis, les gens étaient morts de rire. » Et s'identifier, parce que le rejet, la différence, et voilà. Et je terminais en disant « La différence, c'est ce qui nous lie. » Voilà ce que j'en retiens de cette histoire.
Maintenant, vous intervenez auprès des publics. Ça me fait un peu penser au cas de Clara Luciani, finalement, qui a été, elle aussi, beaucoup victime de harcèlement, de moquerie, et qui aujourd'hui chante...
À cause de sa taille ?
Oui, exactement. Ah. Beaucoup, on l'appelait la grande, la moche même, c'est ce qu'elle raconte. Et alors, du coup, si vous repensez à ceux qui se sont moqués, vous avez de la colère ? Vous avez un esprit de revanche, maintenant que tout se passe bien? Ou alors, quelque part, vous pensez que c'était autant peut-être votre faute que la leur?
Alors, je pense que ce n'est la faute de personne, d'abord, parce que je pense que, c'est juste... c'est la vie, point.
Et c'est l'enfance aussi.
Et c'est l'enfance et sa cruauté. Donc, j'en veux à personne. Le fait que les personnes qui ont été dures aujourd'hui aient des destins qui me font pas rêver me fait même pas plaisir, me fait un peu de peine. Moi, en fait, ce que je regrette, c'est que cet enfant-là, qui est toujours là en moi, bien présente, et à qui je devrais parler un peu plus souvent pour lui dire qu'il faut pas qu'elle s'inquiète parce qu'elle va avoir une belle vie, c'est plus elle. Je leur en veux parce qu'elle me fait mal au cœur, cette petite.
Oui. C'est terrible. des études ont montré, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment dire aux ados, hein, que la plupart des adolescents qui ont été, on va dire, aujourd'hui on dirait très populaires, des chefs de meute, des chefs de groupe, un peu méchants avec les différents, sont souvent des adultes moyens, effacés et sans véritable triomphe singulier, tandis que celles et ceux qui deviennent plus charismatiques, plus singuliers, et notamment beaucoup de rockstars, ont été, dans l'adolescence, voire la fin de l'enfance, plutôt inhibés, plutôt timides. Voilà, le cas de Bowie, par exemple. Et ça, c'est quand même intéressant.
C'est vrai que Bowie, on peut pas l'envisager. C'est difficile de déduire, en voyant la discographie, les clips et le parcours du bonhomme, que c'est quelqu'un qui était...
Bah pourtant, si. D'ailleurs, vous savez, la créativité extrême, comme ça, quand on se réinvente autant, c'est quelque chose qui est souvent lié à un doute davantage qu'à une sorte d'excès de confiance, quoi. D'ailleurs, venons-en à votre travail qui prend plein de directions. Donc là, voilà, c'est un roman, mais aussi beaucoup de chansons, beaucoup de danse aussi. Vous avez fait une comédie musicale. Et dans tout ça, beaucoup de travail. Vous travaillez beaucoup. Finalement, qu'est-ce qui nourrit cette énergie de travail ? Qu'est-ce qui l'alimente ?
La peur, beaucoup. La peur la peur de ne pas m'auto-satisfaire, j'allais dire. Bizarrement, j'ai une immense tolérance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de moi, je suis souvent dans le jugement. Et c'est vrai que, je me sens toujours feignante. Il y a quelque chose, j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez. Même quand je termine la commode, je me dis, presque 6 mois après, je me dis, mais c'est pas possible que j'ai fait ça, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur. Moi, j'ai eu un papa musicien qui a beaucoup affronté les galères. Presque une vie à compter les cachets, d'engueulades, à se dire est-ce qu'on va les avoir, est-ce que machin, avec des enfants à nourrir, tout ça. Donc je pense que j'ai une image de ce métier qui l'a forgé mon père pour m'empêcher de le faire, ce qui a très bien fonctionné d'ailleurs, on s'en rend compte, qui m'effraie.
Un des ressorts de l'ambition, il y a eu un beau livre, enfin beaucoup de livres là-dessus, c'est souvent le rapport à l'image qu'on a eue de ses parents étant enfant. En gros, d'après cette thèse, mais qui est assez étayée statistiquement, serait ambitieux.
Vous l'étayez, je crois aussi.
Serait ambitieux, mais attention, ambitieux au sens noble. Alors, je ne parle pas de Rastignac, Arriviste. La belle ambition, c'est les enfants qui ont vu leurs parents au fond se battre et ne pas obtenir suffisamment de reconnaissance.
C'est mon cas. Je vous en parlais tout à l'heure, hein. Il s'agit même pas que de mes grands-parents. Mes parents, à l'adolescence, je leur ai fait de tout. Il n'y a pas une bêtise qui passait pas entre mes mains. Et parce que je disais, mais cultivez-vous, mais prenez du temps pour voyager. Un jour, mon père, je lui dis, mais pourquoi tu prends pas ta guitare, tu pars pas en Amérique du Sud? Et il me regarde, il me dit, parce que j'ai 2 gosses à nourrir, ma chérie. Ah, et ouais. Et il y avait quelque chose là-dedans qui me rendait dingue, parce que je pensais qu'ils avaient des capacités immenses et qu'ils en utilisaient 10%, alors que eux, ils étaient dans quelque chose de nécessaire. Et je me rappelle, parfois, je disais, ah, pourquoi on a du Shakespeare à la maison? Vous avez jamais lu Shakespeare? Vous savez quoi, maman, t'as eu pitié d'un démarcheur, alors tu lui as pris toute l'intégrale.
Et aujourd'hui, vous invitez votre père sur scène, parfois, à vous rejoindre.
Mais c'est un superbe chanteur qui selon moi, aurait mérité une carrière immense qu'il n'a pas eue. Et vous voyez comme je m'emballe d'ailleurs en le disant moi-même, je me dis mais voilà, l'adolescent en colère.
Non mais on sent que c'est un des ressorts de l'ambition. Je vous propose un petit quiz maintenant. Hein? Alors des réponses courtes.
Je suis nulle.
Il n'y a pas de piège.
Ouais.
On y va. Olivia Ruiz, chocolat ou café?
Les deux, mon capitaine.
Joie ou bonheur?
Joie.
Joie tragique ou joie sereine?
Joie sereine.
Starac ou The Voice?
Aucun des deux. Je n'ai plus la télé depuis 15 ans et c'est vrai que je m'arrête rarement avec mon ordi sur ces émissions, mais je découvre les artistes après coup.
Booba ou Nekfeu?
Ma génération dirait plutôt Booba, oui. Bon, je vais dire Booba parce que c'est mon adolescence.
Oui. Ouais, vous avez aimé? Quand même.
Alors, aimer, il y a toujours quelque chose qui me met à distance en tant que femme, qui est, voilà, une ironie qui me touche à des endroits qui me piquent. Mais oui, je peux pas dire qu'il a pas marqué mon adolescence.
Federer ou Nadal?
Moi, attendez. Celui qui s'enlève tout le temps son petit slip des fesses. Ouais. Celui qui a fait parler ma grand-mère morte d'un cancer de la langue pour la dernière fois. Elle ne parlait plus et elle arrivait quand même à dire, devant Roland Garros, Rafa.
Légal ou légitime?
Ni l'un ni l'autre.
Absolu ou relatif?
Absolu.
Ombre ou lumière?
Lumière.
Et pour finir, sensualité ou beauté?
Sensualité, on a répondu ensemble déjà.
Alors justement, on n'a pas eu le temps d'aborder quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le livre, qui est le rapport de la sensualité à la langue, et précisément à l'accent espagnol. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Bah, y a une rondeur dans cette langue. C'est tellement plus facile, par exemple, de faire sonner une chanson en espagnol qu'en français. On a ce R qui nous, alors que là le R est complètement est une caresse. C'est une langue qui est ronde, qui est pleine, qui est fluide, qui est comme une caresse, alors que le français nous oblige à plein de pirouettes pour réussir à le faire sonner d'une façon rythmique. Donc rien à voir. L'Espagne a quelque chose. L'espagnol a quelque chose de plus féminin, de moins, j'allais dire de moins dictatorial, mais du coup c'est pas très raccord avec l'Espagne après.
Ouais. ce personnage, très beau personnage de femme, hein, la Buella, donc cette grand-mère Rita, après avoir pris la mesure de sa sensualité, notamment grâce aux mots, elle rencontre Raphaël. Et voilà comment elle décrit sa première fois. Je vais donc vous lire Olivia Ruiz, la commode au tiroir de couleurs. Je succombe sans retenue. Donc pour qu'on comprenne, c'est dans la lettre qui se trouve dans un des tiroirs de la commode.
C'est ça.
Je succombe sans retenue à ses baisers, puis à ses caresses, puis à tout son être m'enveloppant comme de la soie. Ça ne ressemble pas à une première fois, plutôt à une chorégraphie que nos corps auraient répétée des heures durant pour atteindre une telle fluidité. Pourtant, notre danse s'écrit au fur et à mesure que nos peaux s'apprivoisent, dans la lenteur et l'écoute, dans ce que le plaisir peut avoir de plus sacré et de plus mystique. Nous voyageons dans notre corps, soumis à nos propres sensations autant qu'à celles de l'autre. Ce silencieux dialogue, rompu par instants par nos souffles sauvagement courts, est d'une pureté biblique. Le contenu n'est pas très catholique, ça non, et heureusement, mais aucun geste n'est indécent, n'est-ce pas, s'il est guidé par l'amour et la confiance dans une volonté commune. Bien sûr, je veux lui plaire, mais avant tout je suis spectatrice de ce qui se métamorphose en moi, surprise et assoiffée d'en savoir plus. Je ne cherche pas simplement à lui faire plaisir, je suis aussi centrée sur ma volupté naissante, et c'est pour ça que cette première fois est aussi merveilleuse. C'est pas toujours comme ça la première fois.
Non, bah non, les premières fois en général c'est quelque chose qui est un peu qui est à tâtons. C'est rarement la première fois qui va révéler la compatibilité de deux corps. La deuxième, la troisième, oui. Ouais. En vous écoutant, je me disais tiens, ça me rappelait ce moment où, il y a quelques années où je défendais souvent le fait, et c'est probablement pourquoi j'ai écrit ça. Le fait que si chacun se concentrait sur son propre plaisir, un rapport pouvait être encore plus fort. Qu'on était souvent à trop penser à l'autre, alors que si chacun se concentrait sur sa propre machine, et c'est peut-être pour ça que je dis, je fais dire à Rita.
Un bon conseil pour l'été.
Voilà, un bon conseil, pas sur les plages, du coup. Sinon, vous allez avoir quelques lettres de réclamation. Mais voilà, il y a quelque chose qui est autant de l'ordre de l'écoute que dans la découverte intérieure de ce qui se métamorphose. Et c'est ça que je trouvais beau dans ce petit moment suspendu entre ces deux êtres.
Olivia Ruiz, j'aimerais finir avec une question qui pourra résonner évidemment à la lecture de votre livre, mais pas seulement. Au fond, vous êtes l'enfant de quoi?
J'allais dire de l'Occitanie, parce que l'Occitanie, c'est déjà une terre de mélange. C'est déjà une terre espagnole, portugaise, nord-africaine. Donc je suis l'enfant de la Garrigue, des Corbières et du Minervois, parce que les Corbières et le Minervois contiennent tout. autant les traces des Cathares que ceux des diverses vagues migratoires qui sont passées par la région. Donc j'aime cette idée. Et je crois que plus on se rapproche de son petit territoire, plus on est, comme on le dit, citoyen du monde.
Voilà, c'est très beau d'aller au fond de soi et du passé pour retrouver le présent et l'avenir. Olivier Ruse, merci.
Merci.
Je vais
Charles,
essayer de résumer pour les auditeurs la philosophie de la vie que vous avez laissé entendre ce matin. Alors, il y a quelque chose d'intranquille, évidemment. Un mélange d'intranquillité et de sensualité. Quelque chose aussi de déplacé. C'est très beau, ce sentiment de n'être jamais à sa place. On a l'impression que, quelque part, vous ne comprenez pas ceux qui sont trop là où ils sont. Vous avez ce sentiment comme ça de ne pas être là où vous devriez être. Et peut-être c'est ça le principal moteur, ce qui fait aussi que vous allez ailleurs. Ça me rappelle une phrase assez drôle. Je ne sais plus qui m'avait dit ça. Et j'ai tellement le cul entre deux chaises que je me lève.
Ah, mais ça correspond complètement à ma philosophie, le mouvement comme ancrage. C'est pour ça que je danse, c'est pour ça que je pars en tournée, c'est pour ça que je voyage. Donc oui, ça résume parfaitement ma petite...
Je danse, je me lève, j'avance, mais je n'oublie pas le passé. Merci beaucoup, Olivia Ruiz.
Merci, Charles.
Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Philippe Duclos, à la programmation musicale Valentine Chudebois. Illustration sonore Romain Couturier, elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins, sous le soleil exactement, à 10h précise sur France Inter, sous le soleil de Platon. À suivre, après le Flash Info, rendez-vous Place du Marché avec Aurélie Sfèze. Bonjour Aurélie.
Bonjour Charles, aujourd'hui on est à Corté en Corse et avec nos invités, on va cultiver la terre et l'esprit, parler d'avant-garde, de série Z et du futur de la Corse.
Cultiver la terre et l'esprit, joli programme Aurélie, merci, à tout à l'heure.